Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ce ne sont pas des obligations symétriques. Les parents doivent plus d'assistance, de soins, d'aide, d'éducation aux enfants qu'ils ne leur en doivent à leur tour. Mais il reste que les enfants, les petits-enfants et même les gendres et les belles-filles, tant qu'ils sont mariés, doivent à leurs parents ou beaux-parents ou grands-parents ce qu'on appelle des aliments. Autrement dit, ils ont l'obligation de leur fournir en cas de manquement ou de besoin ce qui est indispensable à leur vie courante, un toit, de la nourriture, des vêtements, des soins, de l'argent. Et si j'ai bien compris, il n'y a pas de hiérarchie entre les descendants, c'est-à-dire que la personne dans le besoin peut décider de demander de l'aide à l'ascendant de son choix, pas forcément son fils ou sa fille, ni ses enfants, ça peut être directement un petit enfant ou une belle-fille qui sera ravie. Et si celui ou celle-ci refuse de remplir son obligation alimentaire, alors le demandeur peut saisir la justice. Il doit prouver qu'il ou elle est vraiment dans le besoin, mais il n'est pas tenu ou elle n'est pas tenue de vendre son logement, par exemple, pour réclamer de l'aide. Ensuite, c'est le juge qui décide et il n'y a pas vraiment de barème, un peu comme dans les pensions alimentaires. Mais il faut préciser que si un parent a été déchu de ses droits parentaux, il ne peut plus rien demander à ses enfants. Sur les forums de discussion, on trouve d'ailleurs des tas de conseils sur le mode « Comment ne pas aider mes parents ? Puis-je refuser de payer la maison de retraite ?» et d'autres astuces pour ne rien faire pour ses parents qui en disent long sur le ressentiment et la rancœur qui existent encore dans certaines familles. Il y a également un article du Code civil, l'article 207, qui nous intéresse aujourd'hui, car il estime que si l'ascendant a manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. Tout de suite donc, c'est un cas de figure particulier sur ce thème et il est raconté par Leïla Djikli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis Françoise Le Goff, je suis documentaliste. Je suis enfant de féminicide. Notre maman Josiane a été assassinée il y a 36 ans par notre géniteur devant les yeux de ma petite sœur, alors âgée de 10 ans, et moi-même âgée de 13 ans. Alors, le 21 novembre 2018, je rentre du travail. Mon mari me dit qu'il y a une enveloppe un petit peu spéciale qui m'attend au courrier. Je me suis aperçue que c'était une demande financière pour participer au paiement, au financement de la maison de retraite de notre géniteur assassin de notre mère. Ça a été un choc de recevoir ce courrier parce que tout de suite, immédiatement, je me suis... D'abord, j'étais très en colère. Je me suis habillée aussi de mes 13 ans. Ça m'a ramenée, bien évidemment, au 11 décembre 1982, le jour où notre maman s'est fait assassiner par notre géniteur de 2 balles, une première dans le ventre et une deuxième dans la tête. Donc déjà ce premier jour-là effectivement est revenu, a littéralement explosé dans notre tête. Ensuite les jours qui ont suivi et la nuit qui a suivi aussi, ça a été la remontée des violences conjugales, de toutes les violences que nous avions subies, de la séparation, de la fratrie. Quand je vous dis que je me suis réhabillée de mes 13 ans, c'est vraiment comme si j'avais une autre peau et que ce courrier m'avait rebalancé 36 ans dans le passé. J'avais 13 ans, 13 ans et demi, c'était à Angers, dans notre maison familiale. Notre géniteur...
Vous l'appelez géniteur ?
Ouais, parfois, j'avoue que je peux dire mon père. En fait, ça dépend dans quel contexte se trouve mon souvenir. Quand je parle de lui sur un souvenir d'avant l'assassinat, il peut m'arriver de dire mon père encore. Et après, je pense que je dis plutôt mon géniteur, mais ça, c'est... Voilà, c'est... C'est comme ça. Donc, le 5 décembre, il nous a mis une nouvelle fois à la porte. Alors, il était rentré en colère et il nous a dit « Vous avez 10 minutes pour décarpir d'ici ». Donc, on avait réuni quelques affaires pour aller à l'école et on était partis très vite. Donc, d'habitude, ce qui se passait, c'est qu'effectivement, notre maman revenait à la maison et nous, en sortant de l'école le lundi, on se demandait toujours où on devait aller. Là, notre maman nous a dit de la rejoindre chez une amie. Et voilà, nous avons été hébergés pendant 5 jours dans des endroits différents. Mon frère était chez ma grand-mère et ma sœur et moi avions un petit studio, toutes les deux, pas très loin de l'appartement où ma mère dormait chez son amie, sa copine. Et du coup, ce fameux jour, nous nous y sommes donc rendus parce que notre géniteur avait eu ma mère au téléphone la veille et lui avait demandé expressément d'être présente avec ma sœur et moi-même qui souhaitions lui fêter sa fête, la Saint-Daniel, donc le 11 décembre. Nous, dans nos têtes d'enfants, on trouvait que c'était sa fête, on avait un cadeau, on souhaitait lui fêter, on avait de la peine pour lui, il était tout seul à la maison, nous n'étions plus là. J'avais de la peine pour lui et moi, ça me dérangeait pas d'aller le voir et de lui fêter sa fête et de lui offrir le cadeau que nous avions prévu. Donc, notre maman était très tournée sur ce que nous ressentions et elle a accédé à cette demande et d'ailleurs, elle l'a faite parce que c'est notre géniteur lui-même qui lui a demandé d'être présente. À la base, on devait y être que seul, quoi. Donc, ce fameux samedi, nous sommes arrivés à la maison. Ma mère n'a pas souhaité rentrer dans la maison, elle est restée sur le palier. Ma sœur et moi sommes montées dans notre chambre au premier étage chercher les cadeaux. Je lui ai offert donc, de ma part, et d'ailleurs de la part de mon frère, une boîte de parfum en forme d'expadon, alors que ma sœur lui offrait des boîtes de chocolat. Et puis, après, il a juste dit qu'il avait aussi un cadeau pour notre maman. Et ma mère a essayé de reculer en partant en disant que non, c'était pas la peine, que c'était fini. Et lui, il est parti dans le couloir et il est revenu avec une carabine. Et voilà, il a tiré tout de suite quasi. Enfin, il a, le temps qu'on comprenne ce qu'il avait dans les mains, il avait levé la carabine et tiré sur ma mère qui s'est penchée en avant. Donc le coup était dans le ventre. En fait, donc elle est tombée. Et quand elle est tombée, j'ai dit à ma petite sœur, parcours. Et je me suis moi aussi mise à courir. On est parties toutes les deux en direction de nos voisins et on a entendu le deuxième coup de feu quand nous arrivions à peu près à la porte là-bas. Donc après, c'est voilà, le coup de fil de mes voisins, la police. Moi qui voulais ressortir, que mes voisins m'en empêchaient. Ma sœur qui avait plutôt peur. Enfin, voilà, et... Et ensuite, je ne sais pas combien de temps ça a duré, le fait de ressortir de la maison et de courir sur le corps de ma mère. J'ai couru, la seule chose qui tournait dans ma tête, c'était d'aller à ses côtés. Alors, il était trop tard, bien sûr. Personne n'aurait pu m'en empêcher. Il y avait une personne qui était penchée sur son corps, c'était mon oncle, qui avait été appelé par son propre frère. Et qui m'a tiré en arrière, en fait. Lui, il a été arrêté, ben évidemment, le samedi 11 décembre. Hein. En termes de trauma, nous avons cette fameuse semaine où c'est 15 jours qui suivent Noël, puisque ça se passe le 11. Et moi, je ne me souviens pas vraiment, j'ai que des flashbacks de cette période-là. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que j'étais avec ma petite sœur, je ne sais pas où était mon frère. Je sais que nous avons préparé l'enterrement, parce que j'ai des flashbacks avec mon frère, où on prépare l'enterrement de notre maman tous les deux, où on choisit des chansons. Après, je me revois à Nantes avec ma petite sœur. Je sais aussi qu'à un moment, je me trouve dans une pièce et qu'il y a tous mes oncles maternels qui sont autour de moi, de ma sœur et de mon frère, qui disent « Oui, alors toi, tu vas là, et toi, tu peux aller là ou là, tu choisis quoi, tu fais quoi ?» Et en fait, c'était pas un vrai choix, parce qu'à ce moment-là, d'abord, on était dans la capacité de choisir vraiment, et voilà, on n'était pas là, quoi, en fait. On n'était pas là. Et du coup, bon, c'est comme ça qu'on a été un petit peu distribués. Le 24 décembre, je me souviens que nous avons été, ma sœur et moi-même, auditionnés par la police pendant plusieurs heures pour faire notre déposition. Que ma tante a rappelé que bon, c'était fini, allez hop, c'était Noël, il fallait penser à autre chose. Je me revois ce fameux 24 décembre où j'étais dans la capacité de faire semblant. Je me sentais pas à ma place. Et où on se demande comment on va continuer.
vous aviez quel âge, Françoise, Laurence et Yannick ?
Alors Laurence avait 10 ans, Yannick venait de prendre 15 ans et moi j'avais un tout petit peu plus de 13 ans. En fait, on a été placés tous les trois chez un frère de notre maman. Mon frère était chez un frère à Angers, moi j'étais chez un frère à Nantes et ma sœur chez un frère à Cannes. Sauf que moi j'ai changé de famille entre-temps. J'ai souhaité partir de chez le frère aîné de ma mère. C'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour la famille de la victime, donc de notre maman, donc ses frères et sœurs. C'est difficile pour la famille aussi de l'assassin, donc de notre géniteur. Alors après, être dans la capacité de recevoir un enfant choqué et martyrisé, j'ai des doutes, j'ai mes doutes, ouais. Je pense qu'on aurait été mieux tous les trois ailleurs.
Qu'est-ce qui fait qu'il y avait ce climat de violence à la maison ?
Quand on a été interrogé par la police, on nous a aussi posé cette question-là, bien sûr, mais on n'est pas capable de répondre parce que qu'est-ce qui est pour vous régulier, qu'est-ce qui l'est pour nous, en fait ? C'est pas du tout pareil. Nous, on a toujours vécu dans ce climat-là. En tout cas, on est d'accord tous les trois pour avoir dit la même chose. C'est que quelques mois auparavant, notre mère, qui avait été chassée d'une façon très violente du domicile avec nous-mêmes, a dû être hospitalisée avec un traumatisme crânien. Notre géniteur le niait dans ses dépositions, mais a priori, le CHU avait gardé des traces de ça, même si ma mère n'avait jamais porté plainte. Alors là, c'est quand il y a eu une violence vraiment extrême, j'allais dire, mais les violences de se faire chasser au quotidien, je pourrais pas vous dire, parce que dans notre tête, tout se confond finalement. Est-ce que c'était 20, 30 fois ? Moi, je sais qu'une fois, il m'est arrivé en voiture d'en parler avec ma maman, où j'avais dit « c'est depuis qu'on habite cette maison-là ». Je me souviendrai toujours de ce que ma maman m'a répondu. Elle m'a dit « ça a toujours été comme ça ». Nous, on était déjà finalement condamnés au silence et condamnés à voir que cette violence était acceptable puisque nous avions grandi dedans. Nous avions, en grandissant, surtout avec mon frère, hein, c'est beaucoup l'aide de mon frère aussi à cette époque-là quand même, qui était plus grand que nous et puis peut-être plus conscient, parce que moi je pense que j'essayais de pas être consciente. On fait comme on peut hein, pour se protéger de ça. Mais du coup, on avait effectivement échafaudé des plans de repli ou des plans de fuite, des plans de protection. Plan de fuite, c'était quand on mangeait tout seul parce que notre géniteur n'était pas rentré. Déjà, on savait que c'était pas normal. Donc déjà, ça mettait de la tension dans la maison. La tension, c'est palpable. Nous, on savait détecter en plus sur notre mère, sur son visage, dans ses gestes, la nervosité, l'inquiétude, les coups d'œil vers la pendule, les mains qui tremblent, qui nous dit de nous dépêcher et ensuite d'aller nous coucher pour nous mettre de quelque part aussi à l'abri. Et elle affrontait seule peut-être son mari. Quelque part, ça devait être ça, je suppose. Et nous, du coup, nous montions dans notre chambre, mais on s'était concerté avec mon grand frère et on se disait, bon, ben voilà, on met des chaussures, on garde des cartables, tout est prêt pour demain, c'est bon, donc je se sur au pied, maman va venir faire un bisou, les chaussures, tant pis, c'est dans les draps, et hop, remonter la couverture jusqu'au cou pour que notre maman voit pas qu'on était habillés, bonne nuit, elle redescendait, et nous, on était sur le qui-vive, on attendait. Et la plupart du temps, il nous fallait effectivement décarpir de la maison familiale quand le géniteur arrivait, et quand on entendait en bas, alors où notre mère nous criait de descendre et on partait, où nous descendions de nous-mêmes parce que nous entendions crier notre maman et du coup nous voulions que ça s'arrête. Son procès a eu lieu à peu près un an après, début décembre 83 a priori. Moi j'ai pas eu le droit d'y assister, bon... Mon frère y a été, ma petite sœur n'était pas au courant, on ne se voyait pas de toute façon, puisqu'on habitait dans des villes différentes. Hein. Donc moi j'étais à Nantes encore à cette époque, ma sœur à Cannes et mon frère à Angers. Moi j'ai appris un an après qu'il avait été condamné à 14 ans de réclusion criminelle. C'est un meurtre prémédité, c'est donc un assassinat. La préméditation a été retenue. Donc ce qui veut dire aussi malheureusement qu'avec ou sans moi il l'aurait tué.
Pourquoi vous dites ça ?
Bah, puisque du coup, à la base, je pensais l'avoir emmené ma mère le 11 décembre 82 pour lui fêter sa fête. Le temps que, effectivement, dans ma tête d'enfant, je mûrisse tous ces éléments et que je m'aperçoive que, bon, en se trimballant avec son arme dans sa doublure, il l'aurait eu n'importe où. Le temps qu'effectivement, je puisse récolter les éléments et savoir quoi en faire. Mais oui, c'est le schéma que j'ai construit. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais vous dire pourquoi. C'est le schéma que j'ai construit. Est-ce que c'est un schéma de survie? Est-ce que c'est un schéma pour pouvoir un jour lui reparler? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le schéma qui a été fait dans ma tête. Les années qui ont suivi n'ont pas été faciles. Je me sentais seule en termes, comment dire, de racines familiales. Et du coup, je me suis rapprochée de lui. C'était au cours de mes 16 ans, j'ai changé de tuteur. Je suis passée devant le juge pour enfants. Le juge m'a glissé son adresse en prison. Il a certainement dû estimer que j'avais besoin de lui, ce qui certainement aussi était le cas parce que je n'avais plus rien et qu'on n'avait pas pris soin de moi. Et que du coup, je me suis retournée vers la seule personne qui existait encore. Donc j'ai essayé de créer des liens avec lui. Je suis allée à mes 18 ans le voir à la prison de Muret. Sans jugement, sans attente. Je voulais juste le voir, comme on nous écrivions. C'était les mêmes, la même personne. Enfin, je trouvais que ça n'avait pas changé. Ça faisait drôle. Quand il est sorti de prison, il a rompu avec sa copine. Donc, il est venu habiter quelques semaines ici. Ça a été plus compliqué parce que du coup, il était pervers dans ses relations, en fait. Voilà, il faisait des réflexions, il rabaissait, il se plaignait. Il m'a dit une fois que je ne pouvais pas comprendre par quoi il passait, parce que lui, il avait tout perdu, qu'il avait perdu sa maison, son travail et sa femme. Donc là, quand vous entendez ça, quand même, vous ne pouvez pas laisser passer, quoi. J'ai ta femme, j'ai quand même, c'est un petit peu de ta faute. Mais on sentait déjà, moi j'ai senti le déni. Il s'est construit une histoire, c'est pas possible autrement, quoi. Enfin, pour moi, c'était juste plus possible de l'avoir à mes côtés. Donc, je lui ai demandé de partir. Est-ce que c'est une deuxième chance? Oui, certainement. En même temps, j'ai envie de dire que on a le droit. L'enfant a le droit, mais même maintenant, je suis convaincue que si un enfant veut donner une deuxième chance à son parent, il a le droit, il faut le laisser faire. On n'a pas besoin d'ailleurs de droits parentaux pour cela. Hein. Le lien peut très bien se faire parce que l'enfant décide de revoir son parent. C'est à lui de décider ce qu'il veut faire avec ce parent. Personnellement, j'ai pardonné à cet homme le mal qu'il m'a fait pour pouvoir continuer à grandir sans haine. Et sans colère. Parce que grandir avec de la haine et de la colère, ça vous autodétruit. Et que du coup, la seule façon de faire, c'est de vraiment pardonner ce qu'il vous a fait. Alors évidemment, il n'est pas question de lui pardonner ce qu'il a fait à ma mère. Ça ne me regarde pas dans le sens où c'est pas à moi de pardonner un tel acte. C'est pas ma vie qu'il a enlevé. Je vais juste pardonner ce que ça m'a fait à moi. Et voilà, et je l'ai fait pour moi. C'est pas un acte héroïque, hein. Je l'ai fait juste pour pouvoir continuer. Moi, je dis hein, aujourd'hui, nous avons subi les violences conjugales, nous avons subi la violence d'un féminicide, nous avons subi la violence d'être une fratrie séparée, la violence d'être des enfants placés. La violence d'être des enfants majeurs qui doivent se débrouiller. Et ensuite, la violence institutionnelle. Donc oui, je pense que c'est quand même pas mal, quoi. Et qu'il est grand temps de faire quelque chose pour toutes ces personnes qui subissent autant de violences enfants, de les protéger quand ils sont devenus adultes. Ça paraît presque normal, finalement. C'est des images qu'on ne peut pas oublier. Alors évidemment, on n'y pense pas tous les jours, évidemment. Hein. C'est pas en nous tout le temps. Simplement, on n'a peut-être pas besoin qu'on nous le rappelle d'une façon aussi violente que ce courrier institutionnel. Cette arrivée du courrier institutionnel nous a fait aussi nous interroger, ma sœur et moi-même, hein, sur le fait que notre géniteur ait pu toucher donc la petite retraite de notre maman. alors qu'il l'a assassinée. Ben oui, parce que légalement, ils sont toujours mariés. Elle n'a pas pu divorcer. Elle n'a pas eu le temps de divorcer. Il l'a tuée avant. Donc, quand il est arrivé à la retraite, il a fait valoir ses droits à la retraite. Les institutions vont quoi ? Ben, vont rechercher en disant, bon, vous avez été marié avec madame. Ah, ben, madame a travaillé tant de temps. Vous avez le droit de toucher tant. C'est peut-être rien. C'est peut-être que modique comme somme. Mais juste le concept de la chose. Je sais pas, moi, je trouve que c'est juste... Voilà, encore une violence que nous, enfants, on doit subir, qu'on doit comprendre. Et si on pouvait juste arrêter toute cette violence qui nous entoure, quoi. Alors ce courrier, c'était donc un courrier du département du Maine-et-Loire qui nous demandait de remplir tout un dossier où, enfin que vous recevriez aussi si vous mettiez votre parent en maison de retraite, hein, le dossier basique pour pouvoir évaluer votre part à vous pour payer donc la maison de retraite. Il y avait juste une petite lettre qui accompagnait ce dossier. C'était suite au fait que Monsieur Daniel Le Goff était mis à la maison de retraite depuis février 2010. 18, ce qui voulait dire qu'en plus il y avait un arriéré à payer, eh bien on nous demandait de remplir ce dossier. Je pensais que les institutions qui ne se sont jamais manifestées quasiment pour nous, qui ont laissé nos oncles nous départager et nous distribuer, qui nous ont laissé gérer notre majorité seule, qui nous ont laissé sur le bord de la route quelque part, hein, je pensais que les institutions n'auraient jamais le culot de venir nous chercher. En tout cas, ils l'ont fait via le département parce que il y a une chose qui nous a sauvés. Enfin, moi, je tiens quand même beaucoup à le dire parce que c'est très important. C'est de savoir que l'UDAF 49 avait préconisé qu'on nous laisse tranquille. C'est l'Union départementale des familles. C'est eux, c'est l'UDAF qui gère les dossiers de requête d'hébergement pour les enfants. Sauf que l'UDAF n'a pas été suivi. Le département a dit, oh, bah, vous voulez pas le faire? Ben, nous, on va le faire. Et voilà, c'est ce qui s'est passé pour nous. J'ai compris tout de suite qu'on me demandait l'impensable, ça c'est sûr. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'éthique et de morale. Ça a été encore une fois le fait que les institutions nous brisent. Suite à ce courrier institutionnel que nous avons reçu, le lendemain, le jeudi, la seule chose que j'ai pu faire, ça a été de les appeler, d'appeler le département. Et j'ai eu une dame qui m'avait envoyé le courrier. Et cette dame m'a demandé les preuves de ce que nous avions subi. Alors je lui ai dit que je lui enverrais la seule coupure de journal que j'avais gardée précieusement au cours de ces 36 ans. Donc j'ai été la récupérer dans une mallette que j'avais cachée au fin fond de la maison. Et elle m'a demandé également d'expliciter ma demande et donc de raconter mon histoire. Et là, je lui ai dit que non, je ne le ferai pas. Alors, à contrario, j'ai pas souhaité le faire pour le département. Et Laurence et moi, nous n'arrêtons pas d'en parler maintenant depuis un an. La différence, je dirais que avant, c'était pour nous défendre alors que nous n'étions pas coupables. Aujourd'hui, c'est pour faire entendre la voix des enfants maltraités. Quand j'ai su qu'ils allaient mettre plusieurs jours et qu'on nous disait « bon, il faut attendre, vous allez passer en commission », la colère a été telle que je n'ai pas pu attendre. J'ai saisi un journal local, le Courrier de l'Ouest. Le journaliste a été interrogé le département qui immédiatement a rétropédalé et a dit qu'il nous laissait.
Soulagement.
Alors oui, mais c'était trop tard. C'est ça le problème. C'est que vous voyez, on a reçu le courrier le 21 novembre, calculez les jours, le 11 décembre. On nous disait que c'était fini. Nous étions dans la période, nous, de notre propre deuil. On venait de nous revêtir de notre histoire. C'était trop tard. C'était trop tard. Ça faisait quasi 3 semaines qu'on s'était réenveloppé de toutes nos émotions, de tous nos traumatismes. Et pour nous, c'était vraiment trop tard. Et c'est pourquoi nous avons continué avec Laurence notre combat de faire entendre cette possibilité que nous proposons pour que d'autres enfants ne passent pas par le même schéma que nous avons vécu. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'un enfant qui a été maltraité, qui est majeur aujourd'hui, dès qu'il se sent bien, il va rencontrer un juge aux affaires familiales, il va déposer son dossier en disant « ben moi voilà, mon père m'a violé quand j'avais 5 ans, hein, et voici mon histoire, les preuves et tout. Maintenant, vous l'inscrivez dans le fichier national sécurisé et je ne veux plus en entendre parler. » Ce qu'on a dit avec Laurence, l'article 207 ne nous suffit plus. On veut quelque chose qui soit systématique, qui se fasse en amont de ce courrier institutionnel pour justement qu'on ne vienne pas nous rechercher dans notre vie aujourd'hui. Ce que nous demandons aujourd'hui avec Laurence, c'est la déchéance des droits parentaux pour tous les parents maltraitants. Alors, il y a déjà un article du code pénal hein, et du code civil d'ailleurs qui dit que c'est possible en France, sauf que comme c'est pas systématique, c'est laissé à la bienveillance du juge. Et puis en plus, il y a un problème sociétal. En France, on laisse le lien pervers et maltraitant de la parentalité envers et contre tout. Nous, enfants maltraités, nous disons que ce n'est plus possible. Il y a plein d'enfants aujourd'hui qui souffrent et il faut en prendre soin. Si la France, si l'État français ne les reconnaît pas comme étant des victimes, alors ils ne peuvent pas se reconstruire. Avec la déchéance systématique des droits parentaux, les enfants au moins se diront plus tard que les institutions ont pris soin d'eux. Le deuxième point de projet de loi que nous souhaitons avec Laurence, c'est de lier cette déchéance des droits parentaux à l'obligation alimentaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, en France, on peut déchoir un parent de ses devoirs, mais l'enfant, il garde ses devoirs envers ce même parent. Donc, c'est juste impossible. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est que l'article 207 soit relié avec l'article du Code pénal qui peut enlever les droits parentaux. Comme ça, on n'en parle plus. On inscrit ce parent dans un fichier sécurisé et national, parce que oui, s'il n'y a pas de fichier, 30 ou 40 ans après, les institutions ne sauront pas qui est déchu et qui ne l'est pas. Donc, à un moment donné, il faut aussi arrêter de se voiler la face. Il ne faut pas laisser les enfants maltraités et les femmes maltraitées, violentées, à la bienveillance d'un juge. Il faut que ça soit systématisé, il faut que ça soit inscrit dans la loi, il faut frapper du poing, il faut que cela cesse. Et on pourra le faire cesser que quand ça sera fait d'une façon systématique et ferme.
C'était Féminicide, le combat des enfants, un reportage de Leïla Djitli réalisé par Clémence Gross, attachée de production Aurélie Marsay, Roxane Poulain. Merci à Françoise, Laurence et Yannick Le Goff et une pensée pour Josiane et l'association qu'ils ont créée Enfants devenus grands.